Juliette Rangeval.
Wash your hands. Mask on, hands clean. Need to make room for the vaccine.
Bonjour, à l'aube d'une nouvelle crise économique et sociale qui pourrait être particulièrement sévère, l'Europe se débat toujours avec les partis nationalistes qui paraissent bien ancrés dans le paysage. Une invitée pour en parler aujourd'hui, nous recevons Anaïs Voigilis. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes docteur en géographie géopolitique à l'Institut français de géopolitique, membre de l'Observatoire européen des extrêmes, et vous vous intéressez aux questions de réindustrialisation, on va en parler. Vous êtes aussi l'autrice de L'Union européenne à l'épreuve des nationalismes, c'est publié aux éditions du Rocher. Est-ce que vous pensez que cette nouvelle crise qui touche l'Europe, la crise du Covid, elle peut être le déclencheur d'une nouvelle flambée de nationalisme, de populisme à travers l'Europe ?
C'est encore un peu tôt pour juger, parce que cette crise, elle est assez particulière. C'est-à-dire qu'en fait, au départ, c'est une crise sanitaire qui est en train de se transformer peu à peu en crise économique. Les gouvernements nationaux, l'Union européenne, ont mis en œuvre un certain nombre de mesures économiques, notamment en France, à travers le plan de relance qui est quand même 100 milliards d'euros. Mais l'issue économique de la crise, elle est complètement incertaine. C'est-à-dire que malgré les aides massives qui ont été mises en place, on n'est pas à l'abri qu'il y ait de nombreuses faillites d'entreprises, qu'il y ait une augmentation du chômage absolument énorme. Et en même temps, on sait déjà que cette crise, elle est totalement inégalitaire sur le plan social. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui en sont plus victimes, à la fois sur un plan sanitaire, mais aussi sur tout ce qui va être accès à l'école pour les enfants, à la formation, etc. Donc, les inégalités, on sait que c'est un facteur de vote pour les partis nationalistes, donc ça pourrait les renforcer. Au-delà de ça, il y a tout un environnement international qui est assez complexe. Les États-Unis de Donald Trump, la Chine, la Russie, et des mouvements migratoires qui, même s'ils ne sont pas équivalents de ce qu'on a pu connaître en 2015-2016, sont toujours une réalité, avec des tensions aux frontières européennes. Donc tout ce cocktail merveilleux peut favoriser encore dans les urnes ces partis qui sont déjà bien implantés. Et un dernier élément, c'est qu'on est quand même dans une situation où on critique un peu les institutions dans la gestion de leur crise. On voit qu'il y a de plus en plus de gens qui sont posés au port du masque, qui s'opposent aux mesures de restriction des mouvements qu'on pourrait avoir. C'est-à-dire, par exemple, on parlait de l'idée d'instaurer un couvre-feu à Paris ou de reconfiner, voilà, ce genre de choses. Et il y a des gens qui s'opposent à ça et qui pourraient se tourner vers ces partis. Et l'autre versant de cette crise sanitaire, c'est la montée en puissance de toutes les théories de réinformation. Et ça, forcément, c'est en général des gens qui se tournent plutôt vers des partis nationalistes.
Et en Italie, depuis quelques années, le débat autour du fascisme revient très souvent dans l'actualité. Il y a eu des polémiques qui sont ressorties au gré des sorties littéraires. On pense par exemple à M, l'enfant du siècle d'Antonio Scurati, qui a été récemment traduit en français. Il y a des projets de musées, des provocations de responsables politiques. Alors, est-ce qu'il est revenu le fascisme s'il n'était jamais vraiment parti? Franceline Beretti à Milan s'interroge sur cette spécificité italienne.
Chaque année, les médias italiens filment un spectacle déroutant. Le jour de la naissance de Benito Mussolini, des cortèges néofascistes se rendent à Predappio, son village natal. On y entend le pire.
Io mi considero fascistissimo.
Mio duce, tu che ci guardi dall'alto dei cieli.
Dovrebbero ancora accendere i forni, bruciare tutti i comunisti.
Des hommes fiers d'être super fascistes, des prières adressées au duce protecteur, et même ceux qui voudraient rallumer les fours pour leurs opposants politiques. Ces reportages peuvent donner l'impression que le néofascisme est un folklore d'extrémistes nostalgiques, ultra-marginal et donc, au fond, inoffensif. C'est un vrai problème, car la réhabilitation du fascisme est à l'œuvre bien au-delà des pèlerins de Predappio. Carlo Greppi est historien, spécialiste de la résistance italienne.
Il y a un vrai problème de consensus au fascisme. On sait qu'il y a millions d'Italiens qui pensent qu'au fond, le fascisme a fait des bonnes choses. A pas été mal, a été un moment de grandeur pour l'Italie. Et il a fait des erreurs, par exemple la guerre, par exemple l'antisémitisme, mais à la base, c'était une bonne idée, quoi. C'est hallucinant qu'il y en ait encore là. On n'a pas regardé en face cette histoire pour de vrai. Il faut retourner sur les faits, ce que le fascisme a fait aux Italiens et aux Italiennes, aux étrangers, aux Juifs et à tous les peuples qui attaquaient dans son délire d'omnipotence, quoi.
De nombreux travaux historiques le rappellent pourtant, comme ceux de Francesco Filippi. Il démonte une par une les idées reçues dans son livre « Y a-t-il de bons dictateurs ? Mussolini, une amnésie historique ?» Mais elles ont la vie dure, ces idées, d'autant que depuis 30 ans, des responsables politiques et des journalistes répètent que le passé est passé, qu'il n'y a plus ni droite ni gauche, et donc aucune chance d'un retour du fascisme. Matteo Salvini, parmi d'autres, est très fort pour réécrire l'histoire. Écoutez ce qu'il disait l'année dernière sur le 25 avril, jour de la libération italienne.
Ce pays, tout le monde l'a aimé. Tout le monde l'a libéré. Pas seulement les communistes. Tout le monde a combattu pour la liberté de notre terre.
C'est faux. Les communistes et les socialistes italiens sont entrés en résistance dès les années 1920. Beaucoup l'ont payé cher. Et si des démocrates chrétiens ou des citoyens sans étiquette ont rejoint les partisans en 1943, la gauche italienne formait la majorité des bataillons. L'historien Carlo Greppi rappelle que Salvini n'est pas le premier. L'idée d'une soi-disant fin de l'opposition droite-gauche s'est répandue dès la chute de l'URSS dans les années 1990 et partout en Europe. Mais il y a bien une spécificité italienne.
En Italie, en plus, il y a eu ce qu'on appelle l'offensive révisionniste, conduit en particulier par Giampaolo Pansa, qui a été un journaliste très connu, soi-disant historien, qui a attaqué frontalement la mémoire de la résistance, dénonçant les crimes qui, selon lui, la résistance italienne a commis, oubliant tous les crimes du fascisme. Et donc, dans les dernières 20-30 années, en Italie, il y a ce mantra que aussi les autres ont fait des erreurs, tout le monde fait des erreurs, et de nouveau, le fascisme.
Ce mensonge historique transforme 20 ans de totalitarisme en période avec ses bons et ses mauvais côtés. Carlo Greppi s'inquiète aussi de la manipulation du langage. Le parti Fratelli d'Italia, avec sa chef Giorgia Meloni, est dit de droite, pas d'extrême droite.
Meloni, elle est dans un parti qui est l'héritier direct du fascisme. Mutés politiquement et anthropologiquement, mais là-dedans, ils sont des camarades, camerati, c'est dit en italien, ils sont fascistes. Du 21e siècle, c'est clair. Ce ne sont pas des fascistes de 1924, quoi. On est là. Et donc, il faut reconnaître le loup, appeler le loup avec son nom. Et je crois que tous les intellectuels très loin du grand public qui disent « Eh non, le fascisme, c'est fini, c'est mort dans 1945 », ils ont raison. C'est clair que le fascisme historique, c'est mort en 1945, mais il peut changer de peau et avoir un nom différent, mais être dangereux en même manière.
Si l'on considère Giorgia Meloni et la Ligue de Matteo Salvini, le constat est sans appel. Les deux principaux partis de droite ont des connexions évidentes avec les néofascistes.
Anaïs Vagili, on l'a entendu dans ce reportage de Franceline Beretti, la défiance vis-à-vis de l'élite politique qui est l'un des moteurs du fascisme, est-ce que c'est quelque chose qui existe encore très fort aujourd'hui dans les différents partis nationalistes qu'on peut voir en Europe?
Oui, plus que jamais. C'est-à-dire que, en tout cas, ces partis se nourrissent de la défiance à l'égard des élites politiques pour construire leur discours en disant « nous, nous sommes différents ». Par contre, là où il faut mettre un peu de nuance, c'est est-ce que c'est un retour du fascisme ? Je sais pas. Est-ce que c'est un retour du nazisme ? Je ne sais pas. Mais il faut prendre garde, car on peut très bien produire d'autres totalitarismes qui ne s'appelleront ni fascisme ni nazisme. Donc il ne faut pas forcément penser que le passé revient, mais se dire que l'avenir peut aussi être porteur de danger.
Même si, vous le disiez, en Allemagne, par exemple, il y a eu un immense travail de mémoire effectué après la Deuxième Guerre mondiale, mais on voit aujourd'hui que les actes antisémites sont en augmentation. Rappelez-vous, il y a un an, presque jour pour jour, il y a eu l'attaque contre une synagogue de la ville de Halle, c'est dans l'est de l'Allemagne, le jour de Yom Kippour. Depuis Berlin, Julien Méchaussi.
12h01, le 9 octobre dernier, toutes les cloches de la ville de Halle retentissent, les habitants se figent en hommage aux deux personnes assassinées et aux blessés, victimes expiatoires de l'assaillant qui a manqué sa cible, tuer le plus grand nombre possible de juifs. Des commémorations marquées également par des croix gammées peintes sur des graffitis à la mémoire des victimes. Cinq jours auparavant, à Hambourg, un étudiant juif était agressé à coups de pelle, toujours devant une synagogue. Un morceau de papier avec une croix gammée a été retrouvé dans la poche du pantalon de l'agresseur. Présent à Halle, le président allemand Frank-Walter Steinmeier a qualifié ces attaques d'extrême droite de cauchemar et d'une idéologie profondément ancrée dans la société allemande. Un constat partagé par le président des services de renseignement intérieur, selon qui l'Allemagne fait face à une forte augmentation d'actes antisémites. Dans un rapport présenté au printemps dernier, les autorités dénombrent près de 2000 actes commis contre des juifs ou des institutions persécution juive sur l'année 2019 contre 1800 en 2018, soit une augmentation de 13%. Des statistiques qui se traduisent par la peur de nombreux citoyens juifs d'apparaître dans l'espace public avec une kippa. Honte, c'est le terme le plus souvent utilisé par la classe politique pour qualifier cette montée des violences antisémites dans un pays toujours marqué par les crimes du national-socialisme, des élus, des ministres qui semblent pourtant bien impuissants et une communauté juive qui a perdu confiance dans l'appareil judiciaire. Toujours d'après les services de renseignement intérieur, une minorité de victimes d'actes antisémites juge utile d'aller porter plainte.
Anaïs Feugilis, partout on referme les frontières, les populations européennes s'aperçoivent que quand même la mondialisation comporte des dangers. Est-ce que cette crise du Covid-19, ça ne donne pas en partie raison aux idées nationalistes ?
En fait, ce qu'il faut se dire, c'est que les éléments que portent dans le débat public ces partis ne sont pas toujours mauvais. C'est souvent les réponses apportées qui ne sont pas les bonnes. Oui, cette crise nous montre que la mondialisation dans sa forme actuelle a de nombreux travers. Maintenant, les solutions que prônent ces partis, à mon avis, ne sont pas les bonnes. C'est-à-dire la solution du repli, d'être un entre-soi, entre Français. Ce n'est pas viable sur le plan économique parce qu'on est allé tellement loin dans les échanges que c'est plus possible. Et puis parce qu'on ne dispose pas de toutes les compétences, toutes les ressources, même en matière première, pour être totalement autonome.
Quand on dit qu'on va relocaliser, c'est un vœu pieux.
Non, je ne pense pas que la relocalisation soit un vœu pieux. Par contre, je pense qu'il ne faut pas se tromper dans le débat. C'est-à-dire qu'on ne va pas refaire venir en France des usines à 10 000 salariés. Ça, c'est fini. Puis ce n'est plus le sens de l'histoire parce que nous sommes en train de sortir de notre ère de surconsommation. Par contre, on va avoir un premier mouvement qui va être de rapatrier des volumes en France et de savoir recréer de la valeur en France. Mais la relocalisation, il ne faut pas se tromper. Ce n'est pas le gouvernement qui dit on va relocaliser. Alors, on entend Agnès Pannier-Runacher, Jean Castex dire on va relocaliser. Mais relocaliser, c'est un jeu avant tout collectif. C'est vous, moi, toutes les personnes qui nous écoutent qui vont transformer leur acte de consommation pour favoriser des produits made in France ou au moins made in Europe. C'est les acheteurs privés, les acheteurs publics qui vont essayer de se sourcer principalement en France plutôt que d'aller faire du moins de 10 ans économique ou social. C'est une prise de conscience globale. Et si on joue tous collectif, alors oui, on va peut-être relocaliser. Et alors, on va aussi montrer que ces discours de repli sur soi sont négatifs parce qu'on nous montre tous les aspects négatifs de la mondialisation, mais on ne montre pas aussi tout ce que la mondialisation a pu nous apporter de positif, notamment sur le plan culturel, sur le plan de l'ouverture à l'autre. Et il ne faut pas, parce que quelque chose de dramatique est en train de nous arriver, renier tout ce qui a pu être positif.
Qu'est-ce que l'Union européenne peut faire? Alors, dans cet ordre d'idées, vous dites que c'est une démarche collective. Est-ce que les institutions européennes ont un rôle à jouer?
Alors, l'Union européenne, elle a une place à jouer monumentale là-dedans pour la simple et bonne raison que on le voit par exemple, je prends un exemple sur l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, il y a deux pays qui se battent sur ce sujet, c'est la Chine et les États-Unis qui mettent des moyens énormes. Un État européen n'est pas capable de concurrencer ces États en termes financiers et humains. 27 États européens ont les moyens. Et à 27, on a les moyens de devenir les leaders mondiaux dans de nombreux sujets. On a le marché pour, on a les compétences, on a l'intelligence collective, on a les moyens pour. Donc l'Union européenne peut être le grand chef d'orchestre de ce besoin de miser sur des technologies d'avenir. Par contre, l'Union européenne, dans sa forme actuelle, elle doit aussi être certainement revue. Il y a un certain nombre de traités à renégocier, un certain nombre de choses. Et puis, il faut aussi qu'il y ait la volonté des 27 de s'entendre sur un certain nombre de sujets. On a vu que s'accorder sur le plan de relance a été très compliqué et que c'est encore compliqué de faire voter le plan de relance si on met des exigences qui sont liées à des principes fondateurs de l'Union européenne, à savoir des principes de démocratie et d'état de droit, et qu'on a des États qui sont en train de freiner à cause de ça parce qu'ils enfreignent ces règles. Donc, c'est très compliqué. L'Union européenne, c'est pas que le problème de l'Union européenne, c'est aussi le problème de devoir se faire entendre 27 personnes qui ont des cultures et des idéologies parfois très très différentes.
C'est la bonne échelle pour parler développement industriel, l'Union européenne ?
Je crois que pour parler du développement industriel, il y a trois échelles. Il y a premièrement une échelle régionale, c'est aussi aux régions et aux collectivités territoriales de penser les développements qu'ils ont envie d'avoir. Et d'ailleurs, il y a un programme qui s'appelle Territoire d'industrie qui va un peu dans ce sens, qui a été mis en place. En tout cas, il y a une logique de les territoires doivent prendre en main leur avenir. Il y a une logique de vision d'État, c'est quelle est la vision de l'État en termes d'industrie. Alors aujourd'hui on parle du commissariat au plan, je suis pas sûre que le commissariat au plan soit l'outil adapté au moment, d'autant plus qu'aujourd'hui on a beaucoup de mal dans les administrations à avoir des visions assez fortes, notamment on l'a vu dans le cas Suez, Veolia, le cafouillage qu'il y a eu. Donc, mais l'État doit construire cette vision et doit dire pourquoi est-ce qu'il veut une industrie forte. Et l'Europe a des moyens de financer ces très grands projets qui peuvent transformer notre société. Donc, je parle de l'intelligence artificielle, il y a les biotechnologies, les nanotechnologies, les véhicules électriques, l'hydrogène et tous les tournants qu'on doit prendre à l'avenir. Sinon, on risque de se faire ringardiser, mais c'est un peu ce qui est en train de se passer, malheureusement.
Et c'est ça la clé, l'économique, le social et le rêve collectif pour éviter justement cette poussée des nationalismes, cette poussée de l'extrême droite?
Je crois que la meilleure réponse qu'on peut faire à ces partis, c'est de construire un projet de société qui soit inclusif. Aujourd'hui, on a des partis qui ont réussi à construire un imaginaire, qui ont tout un projet de société qui est excluant, mais en tout cas qui parle à une partie de la population qui ne se retrouve pas dans le discours des élites politiques actuelles et qui a le sentiment qu'il y a un décalage de plus en plus grand entre les politiques publiques mises en œuvre et leur expérience quotidienne. Mais on n'a pas encore réussi à construire un projet de société, une vision de société qui réponde aux nationalistes et qui inclut tout le monde. On ne fait pas nation en pilotant par îlot, on fait nation quand on s'adresse à l'ensemble du corps social.
Merci Anaïs Voigilis. Je rappelle que vous êtes docteur en géographie géopolitique de l'Institut français de géopolitique. Nicole Pachignan, un pacifiste proclamé, se retrouve à la tête d'un pays en guerre, l'Arménie, face à l'Azerbaïdjan. Les combats ont éclaté le 27 septembre dernier, autour et à l'intérieur du Haut-Karabakh, azerbaïdjanais et peuplé majoritairement d'Arméniens. Le premier ministre arménien doit maintenant jouer pleinement son rôle de chef des armées. Nicole Pachignan est notre Européen de la semaine avec Béatrice Leveillé.
Nicole Pachignan a été directeur d'un journal d'opposition, Le Temps d'Arménie. Journaliste, puis députée, à l'issue d'un vaste mouvement de contestation qui a écarté la vieille garde pro-soviétique, il a été désigné Premier ministre par le Parlement le 8 mai 2018. Une vraie révolution en Arménie, petit pays de 3 millions d'habitants, très dépendant de son grand voisin russe. Aujourd'hui, ce pacifiste, fer de lance de la lutte contre la corruption, a-t-il d'autre choix que de défendre les intérêts de son peuple? Charles Murievitch, professeur émérite d'histoire de la Russie et du Caucase à l'INELCO.
Aujourd'hui, le Karabakh est attaqué, donc l'Arménie est attaquée. Et il est là face à un problème absolument tragique. Qui va le soutenir? Qui va soutenir l'Arménie?
Pour l'Azerbaïdjan, la situation est plus claire. Son président, Ilham Aliyev, est lui aussi un allié de Moscou. Mais c'est la Turquie qui le soutient dans son conflit avec l'Arménie. Sur Euronews, il a expliqué pourquoi l'arrivée au pouvoir de Nikol Pachinian n'a pas amélioré les relations entre les deux ex-satellites soviétiques.
Les médiateurs nous disaient patienter encore un peu, un jour les Arméniens auront une approche plus constructive. Mais quand ce Premier ministre est arrivé au pouvoir, après un coup d'État il y a 2 ans, il a complètement détruit le processus de négociation. Il m'a dit qu'il n'allait pas rendre ses territoires, que le Haut-Karabakh devait rejoindre l'Arménie. C'est complètement inacceptable pour moi et aussi pour les médiateurs.
Pourtant, Nicole Pachignan ne croit pas à une solution militaire et il oppose l'autodétermination des habitants majoritairement arméniens et chrétiens au découpage des frontières qui est un héritage de Staline. Il réagit aux propos du président azerbaïdjanais qui accuse les Arméniens du Haut-Karabakh d'avoir déclenché ce conflit.
Notre seul objectif est de protéger le peuple arménien contre un autre génocide.
La Russie peut-elle choisir son camp? La personnalité de Nikol Pachinian et la manière dont il est arrivé au pouvoir nuisent-elles à la relation du Premier ministre arménien avec le chef du Kremlin, Charles Murievitch?
Chacun sait que les Russes sont bien entendu plutôt du côté de l'Arménie parce que leur intérêt stratégique immédiat est en Arménie. Ils y ont des bases, ils y ont une population qui n'a d'autre choix que d'être attachée à la Russie pour des raisons de sécuritaire, bien entendu, mais aussi culturel.
La Turquie, qui n'a jamais reconnu le génocide arménien, pourra-t-elle continuer à soutenir l'Azerbaïdjan contre l'Arménie? Et Nikol Pachinian, ce chef de guerre fan de Gandhi et de Mandela, saura-t-il trouver un compromis avec un État qui est 3 fois plus puissant que le sien?
Accent d'Europe à la réalisation, Françoise Grelot. Vous retrouvez le podcast de l'émission sur RFI.fr ou sur votre plateforme d'écoute préférée. À bientôt.